j'avais envie de donner un écho avant le forum d'épaule de cet après-midi, de réfléchir avec vous au service, à la place que je peux avoir dans l'Église. Thierry a utilisé un mot beaucoup, à plusieurs reprises ce matin, opportunité. Des opportunités à saisir, mais quelle est ma place? Et quand je réfléchissais à ça, il y a un texte qui m'est venu, c'est le texte de Romains 12. Et Nicolas a lu deux chapitres la semaine dernière, on peut en lire un. Vous pouvez écouter, tout simplement. Alors, si vous aimez vérifier, contrôler, relire des mots, il y en a qui aiment ça aussi. C'est important de s'approprier le texte. Sentez-vous libre, soit d'écouter, soit de lire dans votre version. Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à chacun de vous. Ne vous prenez pas pour plus que vous n'êtes, mais ayez une idée juste. Chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais il y a plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps en union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un seul corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. L'un de nous a-t-il le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu ? Qu'il le fasse, selon la foi. Un autre a-t-il le don de servir ? Qu'il serve. Quelqu'un a-t-il le don d'enseigner ? Qu'il enseigne. Quelqu'un a-t-il le don d'encourager les autres ? Qui les encourage ? Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Que l'amour soit sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde. Mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres. Ayez un esprit plein d'ardeur. Ici et maintenant, soyez prêts à servir. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Réjouissez-vous à cause de votre espérance. Soyez patient dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères et vos sœurs dans le besoin. Pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec les personnes qui sont dans la joie. Pleurez avec celles qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien aux yeux de tous. S'il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Très chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. » Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Jusqu'ici, la parole de Dieu et ce texte est extrêmement dense. C'est même pas à chaque verset qu'on pourrait commenter, c'est à chaque phrase, à chaque impératif. Ce qui m'a amené vers ce texte, c'est que ce texte parle de l'Église comme d'un corps. Et ça, c'est une image que Paul reprend plusieurs fois. On la trouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Un corps. Un corps composé de différents membres qui ont différentes fonctions. Et on voit bien l'unité que ça produit. Les églises évangéliques se caractérisent par une large participation de tous. Comme des protestants, ils croient au sacerdoce universel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prêtre intermédiaire entre les chrétiens et Dieu, mais que tous ont accès, que tous sont prêtres. Ça, c'est pour l'héritage protestant, mais les évangéliques voient aussi la participation large de chacun à la vie de l'Église. Ils la mettent en valeur. C'est comme ça que, dans la plupart des églises évangéliques, on retrouve différentes personnes pour jouer de la musique, pour s'occuper des enfants, pour animer des groupes de maison, ou même pour des tâches plus centrales, pour la prédication, pour participer aux soins pastoraux, pour la direction de l'Église. Et ça trouve sa justification justement dans cette image biblique de l'Église comme un corps. C'est quelque chose qui est apprécié dans nos églises. Apprécié parce que ça donne une vie riche et diverse. Et on en a eu un exemple ce matin, avec différents intervenants, et qui nous a apporté tellement de choses. Ça suscite parfois l'admiration de ceux qui connaissent moins les églises, ou qui connaissent moins les églises évangéliques. Waouh, c'est ça que vous vivez, c'est génial. Ça donne envie de participer à ce qui arrive. Mais il y a aussi quelques tensions autour de cette question. Et pour certains, il y a une préoccupation de trouver sa place. Trouver sa place dans l'Église. Ils veulent contribuer à une certaine hauteur, que ce soit leur standard ou que ce soit le standard dans les yeux des autres. En tout cas, ils estiment qu'ils ont une place et ils ressentent cette pression. Je dois trouver ma place. Ils ont l'impression de ne pas faire pleinement partie s'ils n'atteignent pas cette place. Certains, au contraire, freinent. Ils voient comment vivent les autres, ils voient le piège du temps que peut prendre l'Église, le piège de perdre sa louange. Lors de ma prédication précédente, on parlait de l'Église comme d'un système qui marche et de ne plus réussir à rendre un culte à Dieu. Ils ont peur d'être happés par le système. Ils freinent. À l'opposé, il y a ceux qui sont déjà dans, dans l'action et dont la préoccupation est de recruter. Recruter quelqu'un pour faire dans l'Église. Parce que quelqu'un qui ne fait pas, c'est louche. Ou parfois, parce qu'ils sont eux-mêmes très chargés dans ce qu'ils font et que ce n'est pas juste. Ils aimeraient que d'autres participent aussi. Pour certains qui sont aussi dans le service, le problème est autre. Ils veulent protéger leur place. Ils ont trouvé une place, ils s'expriment, ils expriment leurs dons. Et si quelqu'un vient, s'il ne fait pas comme moi, est-ce que j'aurai toujours ma place? Est-ce que j'existerai toujours? Je peux donner l'air de critiquer un peu. J'ai pu avoir moi-même chacune de ces quatre attitudes à différentes périodes de ma vie. Qu'est-ce à dire? Est-ce que ça veut dire que derrière la belle image promue par Paul, la belle image renvoyée par l'Église, ce qui se passe dans les coulisses est moins beau? Il y a une certaine hypocrisie, un certain affichage d'une beauté qui n'est pas réelle? Je ne crois pas. Je préfère dire que nous sommes en tension. Je crois fermement que ce que fait Dieu est beau. Par contre, là où nous en sommes, nous nous débattons encore avec notre ancienne nature, avec des vieux réflexes. Et la sanctification, c'est de rentrer dans ce que Dieu veut. Et Paul, dans ce texte, explique un peu ce que Dieu veut. Paul part de l'image de l'Église comme un corps. Et si vous connaissez un peu la Bible et les lettres de Paul, il ne parle pas beaucoup du corps dans ce texte. Il y a un autre texte qui est dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 12, où là, il développe vraiment l'image de l'Église comme un corps. Il explique un corps, c'est plusieurs parties, mais un seul corps, des parties avec des fonctions différentes. Et ça, c'est vraiment une image classique, que tout le monde ne peut pas faire la même chose, mais qu'on a besoin de tout le monde. Je discutais cette semaine avec quelqu'un qui a longtemps travaillé chez Michelin et qui m'expliquait que chez Michelin, on dit, dans une équipe, on ne peut pas avoir trois têtes. Il faut une tête et deux bras. Si on a trois têtes, il n'y a pas d'action qui se fait. C'est ça, Thierry? C'est une image qui est utilisée à l'extérieur de l'Église. Et Paul va plus loin dans cet épître aux Corinthiens en disant que, en parlant de la solidarité, un membre ne peut pas dire « Non, moi, je ne fais pas vraiment partie du corps parce que moi, je suis trop spécifique. » Il parle de diversité, que tous les membres ne peuvent pas être un seul membre. On a besoin de tous. Il parle d'estime. Un membre ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin d'un autre. Il parle d'unité, qu'il n'y a pas de division, qu'il y a un égal souci pour toutes les parties du corps. Et il dit que c'est Dieu qui a disposé chacune des parties du corps. Pourquoi je rappelle ce que dit Paul à l'Épître aux Corinthiens? C'est parce que nous, on a la Bible, mais les chrétiens du 1er siècle, ils avaient les lettres aussi. Et quand Paul écrit aux Corinthiens, la lettre, elle ne reste pas à Corinthe. Elle circule dans les autres églises. Et chacune est édifiée par ce qui est dit aux autres. Et la lettre aux Corinthiens a été écrite avant celle aux Romains. Et je pense que les Romains qui reçoivent ce texte qu'on a lu connaissent déjà cette image puissante de Paul. Donc, il peut aller dessus et aller plus loin. Il s'appuie dessus et il prend des exemples. Je ne sais pas si vous avez retenu, il cite différents dons, différentes fonctions qu'on peut avoir dans le corps de l'Église. Transmettre des messages reçus de la part de Dieu. Dans d'autres traductions, c'est parler en prophète. Parler en prophète, ce n'est pas prédire l'avenir. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu, qui transmet les messages de Dieu. Et ça, ça arrive encore aujourd'hui. La prédication contient une part de prophétie. On parle à l'Église de la part de Dieu, de ce qu'on a reçu de lui. Ça peut être aussi de façon moins formelle. Transmettre des messages reçus de la part de Dieu, servir, deuxième position, le service dans l'Église. Enseigner, un autre ministère lié à la parole, cette fois-ci moins dans l'immédiateté du « qu'est-ce que Dieu me dit maintenant ?» mais enseignement de la parole, de la Bible, qu'est-ce qu'elle dit ? La connaître, pour acquérir une culture, pour mieux connaître Dieu, on a besoin d'enseignants. Autre don, le don, justement, donner. Donner, c'est bien pour le fonctionnement de l'Église. C'est un don de Dieu. Encourager, que j'ai sauté, voilà, je ne dis pas dans l'ordre. Encourager, un véritable don qui n'est pas seulement de dire « t'inquiète pas, tout va bien se passer », mais qui est être capable d'écouter, de comprendre, être présent à côté de celui qui souffre, d'être un exemple aussi pour tenir bon. Tout ça pour accompagner une parole sûre d'encouragement. Diriger également, c'est un don, ce n'est pas un grade, ce n'est pas une reconnaissance, une récompense pour ceux qui ont bien servi. Diriger, c'est un don donné par Dieu. Et aider les malheureux, qui est une autre forme de donner. Donner, c'est donner pour l'Église, pour son fonctionnement. Aider les malheureux, c'est être capable de voir quand tel ou tel a un besoin particulier et de subvenir discrètement. Voilà une des exemples que donne Paul. Une Église a besoin de tout ça, de tous ses dons, de toutes ses fonctions pour fonctionner. Et au verset 6, il va plus loin que ce qu'il a dit aux Corinthiens. Nous avons des dons à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Les dons que nous avons, c'est pour les utiliser. Je ne sais pas si vous avez noté lorsque j'ai lu dans la liste des dons, c'est toujours suivi par un impératif. Faites-le. Vous avez le don de transmettre ? Transmettez. De servir ? Servez, etc., etc. Un peu comme une marque de sport avait ce slogan « Just do it ». Faites-le, tout simplement, vous ne cassez pas la tête ce que vous savez faire, ce que Dieu vous a demandé de faire. Faites-le. Dieu est celui qui donne gratuitement. C'est l'architecte, le concepteur du corps. Et il insiste sur la place de Dieu. J'essaye d'accélérer, la première partie du culte a été un peu plus longue que d'habitude. Je crois que le passage un peu long que j'ai lu a une unité. Et avant de parler du corps dans les versets 4 jusqu'à 8, il y a une introduction avec ce qu'on pourrait prendre pour des généralités. Je vous invite à offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer. Vous discernerez ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est les premiers versets du passage que nous avons lu. Effectivement, ce sont de belles généralités. On peut les appliquer à tout moment de sa vie. Quand on ne sait pas quoi faire dans sa vie personnelle, quand on ne sait pas comment se tenir avec les autres, quand on ne sait pas comment être dans le monde, dans le travail, on peut les appliquer. Mais là, je pense que ce n'est pas un hasard si c'est là juste avant qu'il parle du corps. Parce que quand on est dans l'Église et qu'on cherche à vivre le corps, on peut se conformer aux habitudes du monde présent au lieu de rechercher ce que Dieu veut. Qu'est-ce que c'est ? Les habitudes de ce monde. Les habitudes de ce monde, c'est vouloir trouver sa place. Dans notre monde, les gens ont soif de trouver leur place, trouver un sens à leur vie. Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle est ma place? Quel est le sens de tout ça? Et ils exigeaient, j'ai pas envie de parler d'eux à la troisième personne, nous en faisons partie. Nous existons à travers le faire. C'est ce que nous faisons qui nous définit, bien trop souvent. Et quand on rencontre quelqu'un, une des premières questions, c'est lui demander qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que ce que nous faisons, trop souvent, c'est ce qui nous définit. Avec les difficultés qui sont liées, les périodes de chômage, par exemple, sont particulièrement difficiles. Si je ne travaille pas, je n'existe pas. Je suis inutile. Difficile aussi, parfois, d'assumer un choix pour un parent de rester à la maison, s'occuper de son foyer, s'occuper de ses enfants. Parce qu'on veut trouver sa place, mais on veut aussi faire quelque chose qui est reconnu. Il y a une échelle de valeur. Et sans caricaturer en disant qu'on veut être riche et célèbre, il y a quand même cette échelle de valeur. Travailler à l'extérieur de chez soi, c'est estimer plus important que travailler chez soi à s'occuper de son foyer. Face à cette tendance de notre monde à vraiment vouloir trouver sa place, à exister par le faire, il y a une autre chose qui, je pense, est plus récente. C'est vouloir protéger son temps, vouloir se protéger. Je crois que c'est nouveau, mais les sociologues parlent de ça, des générations, les générations plus jeunes, les trentenaires, ce qu'on appelle la génération Y, protectrice de son temps. Sans doute parce qu'ils en ont vu d'autres se faire bouffer, qui se mettent en retrait et qui ont du mal à s'engager, ou plutôt qui ne s'engagent pas comme la génération précédente, pas sur la durée, qui ne font pas des chèques en blanc, qui se retirent facilement quand ils l'estiment nécessaire. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Voilà comment il conçoit les choses par rapport à l'engagement. Voilà, je crois, ce à quoi nous devons résister lorsque nous lisons que Paul nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. » Parce qu'on peut importer ça dans l'Église. Chercher à faire quelque chose qui est reconnu, chercher à exister là. Ou alors, au contraire, protéger son temps, refuser de s'engager. Et les deux se côtoient, comme dans le monde présent. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle pour discerner ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Ce texte nous apporte des éléments de réponse. Déjà, je crois que Dieu veut une Église saine. Et à travers les exemples qu'il cite, il cite ce dont l'Église a besoin. L'Église ne cite pas que l'Église a besoin de musiciens, d'une équipe d'accueil, d'une crèche, d'un conseil pour la diriger, d'un trésorier parce que l'argent c'est super important, de quelqu'un qui s'occupe du site web, un responsable bâtiment. Ce n'est pas ça qu'il dit Paul. Paul il dit qu'une Église a besoin d'entendre Dieu. Elle a besoin qu'il y ait des gens qui servent. Elle a besoin d'être enseignée, de connaître la Bible. Elle a besoin d'être encouragée, en groupe et aussi individuellement, quand il y en a qui souffrent. Elle a besoin de dons, de ceux qui donnent de leur bien pour qu'elle puisse fonctionner. Elle a besoin de direction. Ce n'est pas la guerre des chefs, mais elle a besoin d'avoir un berger qui la conduise, qu'il soit un ou plusieurs. Et elle a besoin que ceux en son sein, qui sont les plus démunis, soit aidé. Voilà. Voilà ce que cite Paul. Peut-être vous pensez à autre chose, et dans d'autres épîtres, il y a d'autres listes de dons. Mais peu importe, quand même, celle-ci, là, elle vient nous dire quelque chose. Alors, comment faire, comment vivre entre la liste que j'ai citée de services, musique, accueil, crèche, etc., et puis cette liste beaucoup plus générique, générale? Je crois qu'elles ne sont pas opposées. Ces listes de services, c'est la forme que prend ce que Dieu demande et les dons qu'il donne. Je peux rapporter les paroles de Dieu, servir, enseigner, encourager, etc. Là où je suis, là où je me suis engagé dans l'Église, dans ces services que j'ai cités, dans les autres que j'ai mis de côté. Dieu veut une Église saine. Et pour avoir une Église saine, il l'équipe avec des dons qu'il donne aux uns aux autres. Pas les mêmes sur une seule personne. Dieu, je crois qu'il aime jouer au puzzle et qu'il veut que nous jouions au puzzle. Il nous donne tout un tas de pièces qui s'ajustent les unes par rapport aux autres pour produire quelque chose de très beau. C'est la première chose, Dieu veut une Église saine. La deuxième chose, c'est qu'il veut que chacun utilise ses dons. Avec ce qui est donné, il y a une responsabilité de l'utiliser. Just do it, je disais tout à l'heure. Utiliser son don, je crois que c'est la première chose. Utiliser le don que Dieu m'a donné, ne pas envier celui des autres. Et il y a ce verset, cette parole où il dit « Ayez une idée juste de vous-même. » Nous avons besoin de nous connaître, savoir ce que Dieu a mis en nous. Ce n'est pas toujours le cas. On voit dans les églises, vous en avez croisé, des chrétiens qui disent « Voilà, c'est ça mon don » et qui le publient et qui le mettent en avant. Ce n'est pas toujours le cas. Quand vous les regardez, vous dites « Ah, je ne suis pas sûr. » En vérité, il y a dans l'Église des dons qui sont plus en vue. Ce n'est pas biblique, mais on penche vers ça. Des dons qui sont sur l'estrade déjà. Prédication, présidence, l'animation, la musique aussi. C'est plus en vue. Il y a beaucoup plus de candidats, je dirais, que pour être dans les salles derrière avec les enfants, par exemple. Les dons de direction également. Être pasteur, ça attire certains. Être au conseil, prendre les décisions, avoir des responsabilités, une responsabilité d'un service. Au contraire, il y en a qui ne font rien, qui refusent les sollicitations. Alors que d'autres voient ce qu'ils pourraient apporter. Parfois, soit par manque de confiance en nous, soit par fausse modestie, on dit « non, moi je ne sais pas faire ». Alors que d'autres sont là, prêts à encourager, à dire « tu devrais essayer ceci ou cela ». J'insiste sur ce problème de ne pas croire qu'on a des dons. La Bible dit que Dieu en a donné à chacun. Et dire que nous n'avons pas de dons, ce n'est pas une attitude d'humilité. C'est rater, ne pas voir ce que Dieu a mis en nous. C'est ne pas croire la parole qui affirme qu'il a donné des dons à chacun. Donc que chacun utilise ses dons, les siens, non pas ceux des autres, et qu'ils les utilisent. Ne pas les laisser de côté. Paul invite à être un sacrifice vivant. Un sacrifice, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je ne m'appartiens plus. Moi, Eric, je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à Dieu. Ce n'est plus moi qui décide ce que je donne, quelles sont mes limites. C'est Dieu. J'aimerais rassurer ceux qui ont peur. C'est à Dieu que je me donne, pas à l'Église. L'Église, c'est un bon lieu, c'est un bon moyen que Dieu nous donne pour détecter nos dons, pour les accompagner, pour les former. Mais ce n'est pas open bar pour que le pasteur ou le conseil ou tel me sollicite et m'oblige. Par contre, pour Dieu, c'est open bar. C'est Dieu qui peut me solliciter et à qui je dois répondre. Et ça implique une chose, ça implique qu'il faut que je sois à son écoute. Donc, un sacrifice vivant, j'aimerais souligner ce mot vivant. Dieu ne nous demande pas de sacrifier notre vie et d'arrêter de vivre. Cette vie, on la garde, il nous la rend, il l'embellit. Cette vie, on l'accomplit quand on est à son service. On découvre ce que Dieu a fait pour nous, comment il nous transforme, ce qu'il veut pour nous, ce qui est le plus important. Donc, ce que Dieu veut, que l'Église soit saine, que chacun utilise ses dons, mais il y a plus important. Et dans le texte que j'ai lu, c'est toute la suite, à partir du verset 9 jusqu'à la fin, que l'amour soit sincère, détestez le mal, attachez-vous au bien, aimez-vous d'une affection réciproque, respectez-vous les uns les autres, etc., etc., etc. Ce passage est tellement dense, on pourrait lire un verset par jour et le méditer, on pourrait faire une prédication par semaine sur chacun des impératifs pour comprendre ce que ça implique pour nous. C'est une vie à se laisser transformer par le Seigneur. Et c'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas trouver mon don et ma place, mais vraiment à être liés les uns aux autres, à trouver l'unité qui se trouve par cette vie transformée. Voilà le dessein de Dieu pour l'Église. Et ça, c'est... Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais je trouve ça merveilleux. Alors souvent, on le rate. L'Église peut être un lieu de tension et on n'y arrive pas. Mais quand même, se rendre compte de ce que Dieu a prévu pour l'Église, qu'il compte sur nous, qu'il nous fait confiance, ça me donne envie d'y aller et de construire et d'y retourner. J'aimerais, avant de conclure, répondre à une question qui peut-être vous préoccupe. Comment découvrir son don? Comment est-ce que je peux faire pour découvrir mon don si je ne l'ai pas trouvé? Je parle du don au singulier comme ma place dans le corps, celle que Dieu veut pour moi. Je pense que la réponse, c'est demander à Dieu. C'est lui qui donne des dons à chacun pour la constitution de son corps. Demander à Dieu. Prier, et pas une fois. Encore une fois, c'est une vie de découvrir ce que Dieu a fait vraiment de moi, le plan qu'il a vraiment pour moi. Priez constamment pour ça. Après, d'une façon plus pratique, la découverte de dons, la conviction de ce que je dois faire, il y a deux composantes. Une composante interne en moi et externe, l'Église. Et généralement, on trouve son don lorsque les deux concordent. Ce n'est pas seulement une idée que j'ai, mais tout le monde est opposé, mais je sais que c'est ça. Ce n'est pas non plus les autres veulent que je fasse ça, mais moi je suis persuadé que je ne peux pas. C'est quand les deux se concordent et quand les deux s'interpellent. Et ça peut être progressif. Je me repense, moi, à ma vocation pastorale. Ce n'est pas moi le premier qui ai détecté que j'étais appelé à être pasteur. C'est mon pasteur qui l'a vu, qui me l'a dit. Ça a pris du temps pour que j'y réfléchisse et que je me rende compte qu'il avait raison, que c'était à ça que Dieu m'appelait. Donc, la conjonction d'une information interne sur moi-même et externe de ce que les autres me disent. Je pense aussi qu'il y a la place pour l'exploration. Les membres ont reçu un questionnaire pour découvrir leurs dons cette semaine. C'est une très bonne base pour explorer et pour voir toute la richesse de la façon dont Dieu peut s'exprimer. Il y a aussi discuter avec un aîné dans l'Église, quelqu'un qui vit l'Église, qui peut nous aiguiller, nous conseiller. Il y a aussi essayer de faire telle ou telle chose. Peut-être c'est le début d'une vocation lorsqu'on se rend compte qu'on y trouve sa place. Puis je dirais aussi, faites ce que vous avez à faire. Vivez l'Église. Vivez cette vie que Paul encourage, vie qui crée du lien, d'être attaché au corps. Et à force d'être attaché au corps, c'est là qu'on découvre ce dont il a besoin, ce que Dieu a mis en nous et comment on peut y prendre.